al señor ministro de Economía de Francia, el ministro Bruno Le Maire, y decirle que estamos muy agradecidos por este espacio que nos ha sacado. Vamos a hacer toda la entrevista en francés para no perder tiempo. Adelante, Monsieur Calva, salude a Monsieur le Ministre Bruno Le Maire.
Monsieur le Ministre Bruno Le Maire, merci beaucoup d'être avec nous à l'antenne de la W Radio. C'est vraiment un honneur de pouvoir parler avec vous.
Merci à vous.
Qué honor tener al ministro. La primera pregunta es, ¿cuál es el balance que podemos hacer de Colombia en Francia?
Bon, monsieur le ministre, tout d'abord, on voudrait savoir pour vous quelles sont les conclusions de cette visite de président Gustavo Petro en France, dans cette visite qu'il est en train de conclure.
Écoutez, la participation du président au sommet pour un nouveau pacte financier international a été extrêmement utile. Nous pensons, avec le président de la République, que l'Amérique du Sud a un rôle absolument clé à jouer dans la redéfinition de ce cadre financier international, avec un objectif, c'est aider les pays les plus pauvres à ne pas être obligés de faire le choix entre la lutte contre le réchauffement climatique ou la lutte contre l'extrême pauvreté. Chacun sait le rôle majeur que la Colombie doit jouer dans la définition de ce nouveau pacte, donc nous tirons un bilan très positif de sa visite.
Alors, ce pacte, c'est assez ambitieux, monsieur le maire, mais vraiment, quelle est la faisabilité de la refondation du système financier actuel avec ce sommet? C'est-à-dire, quelle serait la feuille de route pour qu'il ne reste pas que dans des bonnes intentions?
Alors, la feuille de route, elle est très claire. D'abord, il faut que nous puissions accélérer le désendettement des pays les plus pauvres. Et de ce point de vue, je pense que le sommet nous a permis de bien progresser en réglant le problème de la dette de la Zambie et la dette du Sri Lanka. Et nous voulons continuer à régler le problème de la dette des pays les plus pauvres, parce que c'est impossible de se redresser économiquement si vous avez le poids de la dette sur vos épaules. Deuxième objectif et deuxième résultat, redéfinir le rôle des banques multilatérales de développement qui doivent mieux utiliser leur bilan pour prêter davantage avec des projets qui ne soient pas des projets nationaux, mais des projets régionaux, parce que le changement climatique frappe à l'échelle régionale et pas uniquement à l'échelle nationale. Et nous voulons qu'il y ait une meilleure coopération entre les banques de développement. Ce point-là aussi a été acté. Troisième point majeur, c'est la mobilisation des réserves du Fonds monétaire international. Cette mobilisation nous a permis de lever 100 milliards de dollars pour les pays les plus pauvres, donc c'est un véritable résultat positif. Enfin, le dernier résultat, c'est utiliser davantage l'argent privé en utilisant l'argent public comme un levier pour débloquer de l'argent privé sur des projets environnementaux majeurs. Donc tout ça, c'est quatre points qui ont été actés lors du sommet de Paris et qui doivent maintenant se dérouler concrètement dans les mois qui viennent.
Oui, monsieur le ministre, mais jusqu'à quel point on peut parler aujourd'hui d'un compromis des États-Unis, par exemple, ou de la Chine envers ce nouveau pacte économique mondial, parce que on ne voit pas s'ils sont vraiment s'ils ont un intérêt à que ça marche.
Je crois que le grand pas qui a été franchi, la présence du président colombien le montre, c'est d'arriver déjà à rassembler tout le monde. C'est une belle réussite pour le président de la République que d'avoir réussi à rassembler ici à Paris des chefs d'État d'Amérique du Sud, le président de la Colombie, le président brésilien Lula, un représentant américain de très haut niveau avec la ministre des Finances Janet Yellen, le premier ministre chinois, le chancelier allemand et un grand nombre de chefs d'État du continent africain. Donc déjà, avoir tout le monde présent, c'est une belle réussite. Et les États-Unis se sont engagés de manière très forte et très claire pour la refondation du rôle des banques multilatérales. Je crois que c'est une excellente nouvelle.
Alors, je voudrais parler sur une proposition de la France particulière au transport maritime qui émet 3% des émissions mondiales. Et s'il était en état, il serait le 7e pollueur mondial. Pourriez-vous nous expliquer la proposition de la France sur les nouveaux taux d'imposition et comment on pourrait convaincre les Brésil et l'Inde qui craignent un impact sur les importations?
Ce n'est pas une taxe sur les importations, parce que l'objectif, c'est bien de parvenir à une taxe internationale portant sur toutes les émissions de tout le transport maritime. Le principe, il est très simple. Ceux qui polluent doivent payer. Aujourd'hui, le transport maritime ne paye pas pour la décarbonation de l'économie et pour la lutte contre le réchauffement climatique, donc nous voulons qu'il paye. Nous voulons évidemment que cette taxe s'applique à tout le monde, sinon elle n'est pas efficace. Donc il faut que ce soit une taxe internationale. Et je crois que nous avons à notre actif deux réalisations majeures, la taxe minimum à l'impôt sur les sociétés, ce qu'on appelle l'imposition minimale. Ça a été engagé sous l'impulsion de la France et nous y sommes arrivés après 5 ans de travail. Nous avons réussi aussi à mettre en place une taxe sur les géants du numérique. C'est un deuxième résultat international en matière de fiscalité que nous avons obtenu au bout de 5 ans. Donc nous avons prouvé que nous savions le faire. Maintenant, il faut s'y engager dans le cadre du transport maritime, mais la réponse ne peut être que internationale et pas nationale. Sinon, vous avez raison, ça se transformera en taxe à l'importation.
Maintenant, parlons au sujet du protectionnisme vert, parce que on voit qu'il y a une certaine préoccupation du fait que le protectionnisme vert va à l'encontre des pays les moins développés. Comment changer ça?
L'objectif, c'est qu'effectivement, il n'y ait pas des barrières protectionnistes. On peut changer ça si les pays développés investissent davantage dans les pays en développement, notamment pour les aider à avoir leurs propres infrastructures en matière de développement vert. Je crois que c'est un enjeu qui est évidemment difficile à atteindre, mais qui est absolument essentiel. Nous estimons qu'il y a de la place pour tout le monde. Les besoins vont être tels en matière de panneaux solaires, de panneaux photovoltaïques, d'éoliennes, d'hydrogène vert. Il y a de la place pour tout le monde.
Et en parlant d'actions concrètes aussi, Monsieur le maire, selon un rapport d'économistes présenté à la COP27, les pays en développement auront besoin de 2,4 millions de dollars par an d'ici à 2030 pour atteindre leurs objectifs environnementaux. Comment atteindre les objectifs?
Nous avons déjà, avec la mobilisation des fonds des banques de développement, 200 milliards de dollars de plus de disponibles. Les réserves du FMI dont je vous ai parlé représentent 100 milliards. Nous pouvons aussi avoir le produit de la taxe internationale sur les émissions du transport maritime. Nous avons des possibilités de levier avec les fonds privés. Donc je crois que l'argent, il peut être facilement disponible si on l'oriente vers le réchauffement climatique et les pays en développement.
Maintenant, parlons au sujet de la Colombie particulièrement. Est-ce qu'il y aura un compromis de la France pour apporter de l'argent pour le processus de paix qui est en train de se faire avec l'ELN ou dans l'implémentation du processus de paix avec la FARC?
Ça, il faut s'adresser à la ministre des Affaires étrangères qui vous répondra mieux que moi. La seule chose que je peux vous dire, c'est que nous avons une amitié très forte avec la Colombie, avec le peuple colombien. Je pense que nous l'avons montré tout au long de notre histoire récente. Et tout ce qui pourra aider la Colombie aura le soutien du gouvernement français.
Aujourd'hui, le président M. Macron, il a dit que ces sommets montrent l'isolement de la Russie. Comment est-ce qu'on va avancer sur ces pactes mondiaux internationaux sans la Russie ou de quelle manière la Russie est ou pas présente?
Je pense que la première chose à comprendre, c'est que la Russie est un État agresseur. La Russie a agressé l'Ukraine. La Russie a violé les frontières de l'Ukraine, d'un État souverain. Donc il est légitime que l'Ukraine se défende et il est nécessaire que le maximum d'États soutiennent l'Ukraine. Donc pour le moment, nous sommes engagés aux côtés de l'Ukraine. Notre priorité absolue, c'est que l'Ukraine puisse préserver sa nation, puisse préserver son État, puisse défendre ses frontières. Pour le moment, vous le voyez, nous avançons sans la Russie.
Jean-Paul, ¿qué le pasa a Francia si no cambia la edad de la pensión? De todas las protestas que hemos visto, ¿qué pasa con la economía de Francia si no se cambia la edad de pensión?
Monsieur le ministre, on voudrait savoir qu'est-ce qui pourrait se passer avec la France, avec l'économie française, s'il n'y a pas le changement dans l'âge de retraite tel qu'il était présenté par le gouvernement et admis, disons, comme une nouvelle loi.
La loi a été adoptée et maintenant la loi doit s'appliquer. Nous avons décidé avec le président de la République, avec la majorité, de faire passer l'âge légal de départ à la retraite de 62 ans à 64 ans. Je rappelle que dans beaucoup de pays européens, c'est 65, 66 ou 67 ans. Donc il est parfaitement légitime de repousser l'âge légal de départ à la retraite pour avoir davantage de personnes qui travaillent. Et la conséquence économique, c'est qu'avoir plus de gens qui travaillent, c'est avoir ensuite une croissance plus forte et plus de prospérité pour le pays. La France veut rester une des grandes nations économiques du XXIe siècle. C'est ça l'enjeu. Elle veut pouvoir innover, elle veut pouvoir investir, elle veut pouvoir réussir sa décarbonation. Ça demande que tout le monde accepte de travailler davantage. C'est le sens de cette loi qui sera appliquée à partir de la rentrée prochaine.
Et finalement, monsieur le maire, je voudrais aussi vous demander par rapport à un autre sujet aussi assez important, qui est maintenant à Paris, on a les salons aéronautiques internationaux dont après 4 ans d'absence par rapport au Covid ou après les Covid, quel est les bilans de cette réunion? Il paraît que le secteur aérien, il a repris déjà?
Oui, le bilan est extrêmement positif avec beaucoup de ventes d'Airbus. Airbus, pour vous donner un seul exemple, a vendu 500 exemplaires de son Airbus A320neo à la compagnie indienne Indigo. Donc c'est un marché colossal, c'est la plus grosse vente aéronautique depuis l'histoire de l'aéronautique. Donc c'est vraiment le signe que le secteur redémarre. Maintenant, l'enjeu majeur pour l'aéronautique, c'est la décarbonation de l'aéronautique et du secteur aéronautique avec l'utilisation de carburants propres, avec de nouvelles aérodynamiques pour les avions, avec l'avion hydrogène, avec les petits avions électriques. Donc nous allons investir massivement pour réussir la décarbonation du transport aérien.
Juan Pablo, lástima, no podemos seguir. Me informan del despacho del señor ministro que entra a una reunión con el presidente. Por favor, muchas gracias por su tiempo. Ha sido un absoluto placer y una exclusiva. Muy importante hablar con él.
Monsieur le ministre, à nouveau, on vous remercie bien de nous avoir accompagnés. C'est vraiment un honneur de pouvoir parler avec vous sur l'antenne de la W Radio. Une bonne journée et au revoir.
Bonne journée à vous et merci de votre invitation.
Impeccable.